Merci de nous avoir invités à présenter ce livre sur lequel il y aurait énormément de choses à dire, dont, en ce qui me concerne, j'ai souvent, quand je le revois, surtout tendance à regretter qu'il n'y ait pas telle ou telle chose, mais qui a le mérite d'exister. Je suis très content de me trouver mentionné sur la couverture, mais si c'est moi qui prends la parole le premier, c'est pour dire des choses que Thierry ne pourrait pas dire. C'est que c'est vraiment son enfant, hein, plus que celui des deux autres co-directeurs ou coordinateurs, parce que c'est vraiment un livre qu'il a voulu faire, qu'il a conçu, qu'il a porté avec beaucoup de ténacité, et qui a abouti donc à un résultat que on laissera les lecteurs juger. Mais je voulais vraiment dire ça parce que je crois que c'est un livre que aucun de nous, il me semble, hein, peut-être, en tout cas moi, j'aurais été bien incapable de concevoir et de porter à terme. Dans la mesure où Thierry a été longtemps directeur de l'édition française de l'Encyclopédie de l'Islam, qui connaît très bien tout le milieu. D'abord, il est arabisant, un bon arabisant, ce que je suis très loin d'être. Bon, Mathieu Tillet, c'est autre chose. Et il connaissait très bien tout le milieu orientaliste, entre guillemets, auquel il a fait appel pour rédiger ce livre. Je pense que je ne suis pas sûr que personne d'autre actuellement sur le panorama universitaire français aurait été capable de porter jusqu'à la fin ce livre qui a été tout à l'heure, bon, on en parlait, il y a longtemps, quand même pas mal d'années qu'on y travaille. Il y a eu des périodes très très difficiles. La constitution de l'index, par exemple, a été d'une telle, un véritable cauchemar. Et c'est à ça que faisait allusion Anne-Marie en disant que Thierry avait passé tout un été sur cet index, parce que la difficulté de réalisation, peut-être pas mauvaise volonté, mais enfin la conception différente des puffs et la nôtre ont fait que c'était très... ça paraissait à certains moments vraiment une tâche désespérée. Voilà, alors c'est ça que je voulais dire en introduction pour rendre à Thierry ce qui est à Thierry, et en le laissant maintenant développer...
Maintenant, on va passer quand même à la matière de l'ouvrage. Première remarque, on ne disposait pas d'ouvrages récents sur cette période. C'est conçu comme un manuel pour les trois premières années. De base, c'est conçu comme un manuel pour les trois premières années de la fac. Mais c'est aussi conçu comme un ouvrage pour les enseignants qui ne sont pas spécialisés et qui veulent parler de l'islam, et aussi pour un ouvrage pour le grand public qui s'intéresse à l'islam. Mais avant tout, c'est ce niveau de fac. Or, on ne disposait de rien en France parce que la précédente Clio du début du monde musulman avait été faite par Mantran, type charmant que je connaissais bien, un grand spécialiste de la Turquie ottomane au XVIIe siècle, et qui avait fait ça vraiment n'importe comment. Il ne faut surtout pas se référer à l'ancienne édition, parce qu'il ne connaissait pas cette époque. C'était un turquisant, ce n'était pas tellement un arabisant, etc. Et sans ça, on a l'ouvrage des Sourdelles, mais qui est très ancien. On a l'ouvrage de Michel, qui est très ancien. On a l'ouvrage de Cahen, qui est très ancien. Et l'ouvrage d'Elisève, qui sont très anciens. C'est la seule chose qu'on a. Alors que le monde anglo-saxon dispose d'un bon ouvrage, celui de Hugh Kennedy, qui aurait besoin maintenant d'être renouvelé, mais qui est bon, qui est bien meilleur que tous ces ouvrages-là, et qu'en Allemagne, il y en a un qui a été fait par Hartmann, qui est très bon. Donc, la première chose, c'est qu'on vient à la place d'un trou. Je pense que c'est avant tout un manuel universitaire. Alors, comment est-ce que nous l'avons construit ? On s'est posé la question, quelle était l'offre religieuse au 7e siècle, au moment où Mohammed a eu sa prophétie ? Eh bien, le Moyen-Orient était très, très compliqué et il était, comme toujours depuis 1000 ans à peu près, un lieu de confrontation entre un monde perse-iranien d'un côté et un monde byzantin, romain, méditerranéen, comme vous voulez, de l'autre, autour d'un axe qui va du golfe à la mer Noire par le Talweg de l'Euphrate. Et c'est dans ce monde, il y avait quatre religions importantes. Si on part de l'Est à l'Ouest, il y avait le zoroastrisme, la religion donc des Perses, il y avait la religion dite des temples du feu, il y avait le manichéisme, il y avait, avec un principe du bien, un principe du mal qui s'affrontent, mais aussi dans le zoroastrisme, il y a ce double principe, et puis il y avait le judaïsme, qui était la religion la plus anciennement implantée dans la région, et qui avait l'intérêt d'être implanté aussi très fortement dans la péninsule arabique et dans cette région-là. Puis il y avait le christianisme, qui était une religion dominante dans le Moyen-Orient occidental. Et le christianisme qui était séparé en un certain nombre d'églises. Nous avons fait la liste des églises qui existaient au 6e siècle, au 7e siècle, donc des églises variées et qui se disputaient entre elles. Et il y avait donc tout l'espace était bien marqué au point de vue religieux, sauf la péninsule arabique. Donc on a demandé à Christian Robin de traiter de la péninsule arabique et il a fait un très gros chapitre, dont on a coupé un morceau, mais qui est très, très important sur ce qui était arrivé dans la péninsule arabique depuis un peu avant le Christ jusqu'à l'époque de Mohammed, et notamment les oppositions entre païens et juifs, puis entre juifs et chrétiens, et quelle était la situation religieuse à la veille de la prophétie de Mohammedienne. Et il montre bien qu'on cherchait un culte nouveau avec un dieu unique. Et on ne savait pas trop quel modèle prendre. Et c'est à cette angoisse que va répondre Mohammed. Son premier message, c'est « J'apporte une religion pour ceux qui n'en avaient pas jusqu'ici, qui n'est pas une véritable religion du livre. » Et donc le Coran, c'est le livre pour ceux qui jusque-là n'avaient pas de religion du livre. Et on pense qu'à l'époque de Mohammed et du premier calife, Abou Bekr, le message mohammedien s'adressait à la péninsule arabique et pas au-delà. Et il ne s'est adressé au-delà qu'à partir de Omar, le deuxième calife, qui, disposant d'armées qui avaient remporté des grandes victoires au Yémen et ne sachant que faire de ces armées, s'est lancé dans deux conquêtes qu'il devait penser difficiles, qui sont révélées très faciles, la conquête de l'Irak et la conquête de la Syrie. Et à partir de ce moment-là, l'islam a changé, c'est devenu une religion à visée universelle, alors que jusque-là, c'était une religion à visée régionale. Et oui.
Thierry a bien dit quelle était l'intention du livre, l'intention qu'il avait eue, parce que ça, c'est quand même une part importante de ce qu'il a voulu faire. C'est cette très grande importance donnée aux conditions d'émergence de l'islam dans ce monde multireligieux, dans cet espace multireligieux, puis ensuite l'évolution des religions, l'évolution des différentes confessions religieuses à l'intérieur de cet espace. Et c'est vrai que a priori, Peut-être que, moi, je ne sais pas, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais cette partie, elle est très importante, elle est presque un peu disproportionnée. Moi, j'aurais aimé trouver plus de choses sur telle ou telle dynastie. » Et ça, ça a été un parti voulu. Thierry, dans, je ne sais plus, dans ce que tu m'avais donné, dans, en préparant un peu ça, tu as mis que les parties dynastiques et politiques avaient été traitées au pas de charge. Ce qui est un peu vrai. On a été obligé de sabrer dans beaucoup de choses. Pour, alors, bon, mais ça, c'est un choix, et je pense effectivement que tout ce qu'il y a dans ce livre, tu as parlé de Gillot, par exemple, tu as parlé de Grill, il y a des chapitres qui sont, je crois, très, très neufs, en tout cas dans la façon dont tu es rassemblé une somme énorme d'informations. C'est la même chose pour cette atmosphère religieuse dans laquelle l'islam est apparu, et ça, c'est... C'est un choix, c'est forcément au détriment d'autre chose. Je pense que, voyant le livre terminé, on peut se dire qu'on aurait pu, au fond, il ne serait pas énorme, ajouter 100 pages. Il pourrait y avoir 100 pages de plus. Mais là, on avait un non-possumus, enfin, je ne sais pas, ou non-volumus, des puffs.
Oui, alors, les chapitres événementiels ont été traités... pour l'Orient, par Tillet, par moi, c'est-à-dire que Tillet a fait les chapitres les plus anciens, et moi j'ai fait les chapitres à partir du moment où le pouvoir abbasside explose et où il y a un Iran autonome, une Syrie-Égypte autonome. Mais on les a traités très vite. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de se référer à l'encyclopédie de l'islam, et on trouve tous les détails possibles. Donc, ce n'était pas la peine de répéter à nouveau tous ces détails. C'était les grandes lignes qu'on voulait donner. Et puis, il y a des chronologies à la fin pour aider les gens. D'autre part, à propos des religions, ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons ces quatre chapitres sur les quatre religions au début, et à la fin du livre, nous avons de nouveau... les quatre chapitres, sur ce que sont devenues ces religions dans le monde musulman, pendant les quatre premiers siècles de l'islam. Et donc, on voit que le judaïsme et le christianisme se portent très bien, alors que, à l'inverse, le mazdéisme, zoroastrisme, mazdéisme, disparaît à peu près complètement, et comment on appelle ça là ? Le manichéisme disparaît. Mais les deux auteurs qui ont traité ça ont montré qu'il y avait une partie du mazdéisme et une partie du manichéisme qui sont passées dans l'islam. Et ça, c'était très intéressant de montrer qu'ils sont passés et que ça a facilité la conversion à l'islam des anciens manichéens et des anciens mazdéens. Oui.
Là, je rebondis sur une expression que Thierry a utilisée. Le christianisme et le judaïsme se portent très bien. Bon, ça dépend aussi des endroits où on se situe. Et c'est peut-être aussi une des difficultés d'essayer de d'avoir une vision d'ensemble du monde musulman. On ne peut pas dire que pour l'Occident, le judaïsme se porte très bien, ça c'est sûr. Le christianisme ne se porte pas très bien. Hein, au Maghreb, les chrétiens... même s'il en reste quelques vestiges, disparaissent pendant cette période. Et en Al-Andalus, en Espagne, peut-être un petit peu plus, mais au fond, il y a une disparition aussi qui est plus marquée que pour les provinces orientales du monde musulman. Alors ça, il faudrait avoir le temps de réfléchir, de peut-être mieux se poser la question du pourquoi, de ces destins différents. Bon, mais ça, on n'avait pas la possibilité de le faire dans ce cadre-là.
Et c'est une des faiblesses, hier, Pierre, on a cherché... Les faiblesses de l'ouvrage, c'est qu'on n'a pas parlé des rythmes de conversion à l'islam. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont paru là-dessus depuis 40 ou 50 ans, soit sur l'Iran, soit sur l'Égypte, moins à ma connaissance sur la Syrie, mais il y en a peut-être des récents. Il y en a aussi sur le Maghreb, mais nous n'en avons pas parlé parce que moi, ces ouvrages, ils ne me convainquent pas toujours. J'aime mieux ne rien dire plutôt que de dire quelque chose. On sait, par exemple, qu'on continue à parler copte dans les prisons égyptiennes où il y a des coptes, jusqu'au 11e, 12e siècle, au 13e siècle, par l'arabe, les prisonniers coptes. Mais qu'est-ce que ça veut dire de plus, hein ? C'est des choses... Il faudrait un gros travail au monastère de Tor, le monastère de Sainte-Catherine, parce que là, on a beaucoup, beaucoup de textes qui concernent les conversions. Mais ce travail n'a pas été fait, c'est une thèse à faire.
Oui, non, simplement pour ajouter que bon, le livre de un des livres de référence et qui voit l'ensemble du monde musulman, c'est le livre déjà un petit peu ancien, c'est des années 70, si je ne me trompe pas, de Beliet, je ne sais pas bien comment il faut prononcer, sur le rythme des conversions avec une méthode ingénieuse. Et c'est un livre tout à fait intéressant et intelligent où il se sert des généalogies de savants pour essayer de voir à partir de quel moment il y a pu avoir conversion. Et c'est très bien fait. Moi, pour lui, le basculement se fait pour l'Andalous plus tard que dans les autres régions. Et lui, il voit l'inversion se faire, enfin, les chrétiens devenir minoritaires à partir du milieu du Xe siècle. Moi, je suis convaincu, mais je n'ai pas la même argumentation. Je suis convaincu, à lire les chroniques relatives aux époques antérieures, que les chrétiens sont déjà très minoritaires bien avant. Mais je peux me tromper, hein. C'est pour aller tout à fait dans le sens de ce que dit Thierry, que il me semble qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce problème.
Il y a des textes musulmans qui parlent de cela, parce que on a très souvent des soufis, des ascètes, des saints hommes musulmans, qui font des championnats de diète, grève de la faim, avec des moines. Et en général, dans les textes musulmans, ils gagnent, et le moine se convertit à l'islam. Bon, mais ça va pas bien loin, hein, comme genre de choses. Oui ?
Est-ce que l'idée, moi que j'avais appris, que le passage au califat abbasside et l'ouverture de l'administration aux non-arabes était un des moteurs forts de la conversion
Je ne peux pas te répondre. Ce qui est sûr, c'est que c'est avant tout les hommes. Il y a deux choses. Alors, on a beaucoup de chrétiens qui se convertissent parce qu'ils veulent épouser une fille jeune. Et ce n'est pas possible quand on est chrétien, parce que les musulmans défendent aux chrétiens de divorcer. Parce que dans le statut chrétien, on n'a pas le droit de divorcer. Donc, ils se font musulmans pour épouser une fille jeune. En tout cas, dans beaucoup de textes coptes, écrits en arabe par des coptes, quand quelqu'un se convertit à l'islam, c'est pour cette raison. Autre raison, il peut devenir secrétaire très élevé dans un ministère, dans un vizirat. Il ne peut pas devenir vizir. Alors, il veut devenir vizir. Mais, par exemple, à l'époque fatimide, on a des vizirs juifs. Et on a des vizirs arméniens chrétiens. Et le vizir arménien chrétien avait pris, si je me souviens bien, comme nom de vizir Seyf el-Islam, le sabre de l'islam. Donc ces questions de religion, on n'avait pas la même approche qu'aujourd'hui. On pouvait être un très bon chrétien, un très bon défenseur de l'islam contre les méchants chrétiens, ceux qui étaient de l'autre côté. Alors, on s'aperçoit que quand il y a des victoires byzantines, ce qui est le cas entre 950 et 1025, il y a des patriarches chrétiens, un de Jérusalem et un d'Antioche, qui sont massacrés. Mais en général, ceux qu'on massacre, ce sont les patriarches de l'Église byzantine et pas les patriarches de l'Église copte, parce que cela ne passe pas pour avoir des liens avec le pouvoir byzantin. Donc, c'est assez complexe. D'autre part, on change de religion assez facilement. Le plus grand ministre fatimide était d'origine juive, il était irakien, il a travaillé en Palestine et puis il a été ruiné, il est passé en Syrie, et il est passé en Égypte, et il a voulu devenir vizir, il s'est converti au sunnisme. Mais il n'a pas été nommé vizir, parce qu'il y avait un vizir qui n'a pas voulu laisser la place, et il est parti en Afrique du Nord, et est devenu ismaélien fatimide, et au retour des ismaéliens, il est devenu vizir. Donc on se convertissait, évidemment, pour des raisons religieuses. Mais il avait toujours un cercle autour de lui, avec des chrétiens, des musulmans. Et on s'aperçoit que son cercle n'était pas du tout déterminé par sa religion, mais qu'il avait autour de lui que des Irakiens, parce qu'il était irakien d'origine. Et que ça, c'était beaucoup plus important en Égypte d'être irakien que d'être juif. Et en Égypte, si on était chrétien, de certaines églises, on était du haut de gamme. Si on était chrétien d'église copte, on était plutôt considéré comme paysan. Donc c'est une assez grande complexité. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est que c'est la conquête islamique. Bon, la conquête islamique, c'est une conquête extrêmement rapide, moins rapide que la conquête d'Alexandre, qui est la conquête la plus rapide qu'on ait dans l'histoire, mais plus rapide que la conquête romaine, puisque la conquête arabe, il y a plusieurs conquêtes musulmanes, la conquête arabe dure de 635 à 750. Et en 635, il n'y a que l'Arabie qui est musulmane. En 750, l'islam s'étend des frontières de la Chine jusqu'à l'océan Atlantique et s'étend des bouches de la Volga jusqu'au sud du Yémen. Donc c'est devenu un espace immense, mais un espace en longueur, c'est-à-dire avec un climat, ce qu'on a essayé de montrer par les cartes, assez uniforme d'un bout à l'autre. Entre les climats très chauds et les climats très froids, et un climat plutôt sec. Et ce qui est important, c'est que ça met fin à cette longue opposition entre ce monde méditerranéen grec, puis romain, puis byzantin, et le monde iranien, qui a été achéménide, arsacide, sassanide. Donc, ces deux mondes qui s'opposaient sont réunis, et l'axe mer Noire-Golfe, qui était une frontière, est devenu un centre. Et dans les géographes mettent le centre du monde arabe sur cet axe, avec deux ailes, une aile qui va à l'Atlantique, une aile qui va vers l'Inde. Et de ce fait, il y a beaucoup de références à Alexandre. En arabe, on dit Iskandar Zulkarnain, c'est-à-dire Alexandre aux deux cornes. D'après Sérig, ce viendrait de ce que les Arabes avaient vu des monnaies d'Alexandre où il avait un casque avec deux cornes. Mais ce n'est pas sûr, hein. C'est une possibilité. Et Alexandre aux deux cornes a annoncé l'islam, et c'est quand même un personnage très, très bien vu, alors qu'il n'est pas musulman, évidemment, parce que c'est le premier qui a essayé de faire l'union entre les deux mondes. Et dans tous les décrets que vous lisez, rédigés par des califes, il y a quelque part dans les intentions du décret et dans l'intention de relier l'extrême-orient à l'extrême-occident. Donc l'idée que l'islam est un lien est très fort. Et Alexandre est celui qui est précurseur de l'islam, qui a essayé déjà de rapprocher l'Orient et l'Occident. Mais, et alors, sur cet ensemble, il y a l'islam qui fait l'unité désormais. Donc, on peut s'exprimer en arabe depuis l'Atlantique jusqu'au bout de la Chine, ce qui est à l'extrémité occidentale de la Chine, ce qui est quand même assez rare. On peut utiliser les mêmes monnaies. Il y a une monnaie unique. Il y a des lettres de change. C'est le premier espace marché commun, si vous voulez, créé dans l'histoire qui soit aussi gigantesque. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'États qui aient été aussi grands que l'État omeyyade juste au moment de la fin de l'époque omeyyade. Et donc, on a l'impression d'une unité. Alors, j'emploie souvent le terme d'une espèce de sauce blanche islamique, qui a tout recouvert. Et puis, plus on avance, plus les socles qui sont sous cette sauce ressortent à la surface. Et on voit réapparaître des régions. Des régions avec désormais deux identités. Une identité régionale, les Syriens, ce n'est pas les Égyptiens, ce n'est pas les Irakiens. Les gens d'Ifriqiya, de la Tunisie actuelle, ce ne sont pas les gens du Maghreb al-Aqsa, le Maroc actuel, ni du Maghreb central, les Algériens actuels, ni les Andalous, etc., chacun. Mais ils sont tous musulmans, ils prient tous dans la même direction, ils emploient l'arabe, ils ont la même référence, le Coran. Donc, il ne faut pas dire que tout le monde est pareil, et il ne faut pas dire que tout le monde est différent. Et dans ce monde, les chrétiens et les juifs continuent à vivre, mais quand ils produisent... Bon, il y a un chapitre sur les arts mineurs. Quand ils produisent dans une atmosphère musulmane, alors qu'ils continuent à être chrétiens et donc à travailler la céramique ou la verrerie, et à être juifs et à travailler le cuivre, etc. Donc ils ont des spécificités, ou travailler l'ivoire, les chrétiens aussi. Mais ils le font dans une atmosphère musulmane. Et ce qui fait que on peut garder sa foi à titre personnel et fonctionner dans une atmosphère générale musulmane. Oui.
Oui. Moi, bon, il y a une carte qui m'a toujours beaucoup frappé. Je l'ai reproduite puisque c'est un peu moi qui me suis occupé des cartes, ce qui n'était pas la partie la plus redoutable du livre. C'est la première carte pour ce... Bon, malheureusement, on ne peut pas la passer. C'est une carte qui a été publiée depuis longtemps et qui représente les trois domaines sur lesquels l'islam va étendre son emprise. Bon, l'Arabie, qui a quand même une civilisation très particulière et très originale et qui va coiffer, si on peut dire, le tout. Enfin, les Arabes vont coiffer le tout. Et puis, comme l'a dit Thierry, le domaine byzantin et le domaine sassanide. Et je pense que c'est... Enfin, là, je ne fais redire un peu ce que Thierry a dit, peut-être un peu différemment, c'est de coller ensemble ces trois ensembles et de créer les conditions d'une unité, d'une très vaste unité. Alors, moi, bon, j'ai pris à deux ou trois reprises un exemple, ce qui me paraît assez parlant, d'une toute petite ville, enfin toute petite, d'un petit, on pourrait dire, chef-lieu de district, du pied des Pyrénées, en Espagne. Bon, moi, je connais mieux l'Espagne, où c'est quand même très loin du centre du monde musulman, c'est Huesca, hein, c'est pas la capitale de ce qu'on appelle la marche supérieure, de la vallée de l'Ebre, c'est une petite, enfin une ville moyenne, mais moyenne presque petite. Et il se trouve que, bon, pour diverses raisons, on connaît assez bien les savants qui sont apparus dans cette ville, les juristes, hommes de religion. Eh ben, on voit que dès la fin du 8e siècle, 50, 60 ans après la conquête, on a des savants qui vont en Orient, qui font le pèlerinage, qui en reviennent, qui écrivent des traités malikites. On a donc une islamisation, du point de vue déjà intellectuel, qui est assez évidente dans une ville qui est pourtant vraiment marginale par rapport à l'ensemble du monde musulman. Ce qui n'empêche pas que dans cette région, précisément, il y a même une réaction anti-arabe assez forte. On voit les clivages se faire entre les Arabes et les autochtones convertis, assez net. On a des cadis dont on nous dit qu'ils étaient partisans des mouallades, c'est-à-dire des non-arabes, et très hostiles aux Arabes. On voit les Arabes disparaître du panorama social alors qu'ils sont prédominants au 8e siècle. On les voit disparaître complètement au 9e siècle dans cette région. Ce sont des familles autochtones qui prennent qui dominent socialement et socio-administrativement ou socio-politiquement la région. Il n'empêche que ces régions sont musulmanes sans problème. Et là, on est pourtant vraiment... Donc, il y a cette espèce d'alchimie qui s'est faite et qui est parfois un peu difficile à comprendre, de la rapidité de cette à travers laquelle s'est imposé cet ensemble de faits qui constitue le Dar al-Islam.
Oui, alors on est arrivé aux frontières dont je vous ai parlé, donc en 750. Ensuite, il y aura jusqu'à 1050, il y aura peu de variations. Il y a quelques variations, il y a peu de variations. Mais ce qui est intéressant, c'est que les frontières de cette première conquête, la conquête arabe, pas la conquête turque, la deuxième conquête, si on regarde aujourd'hui, tous les pays de cette première conquête sont encore musulmans, sauf toutes les grandes îles de la Méditerranée, donc il n'y a aucune des musulmanes. Bon, il y a des musulmans à Chypre, enfin, ça ne va pas loin, et sauf l'Andalous. Donc, ça pose un problème qui se pose à Pierre plus qu'à moi. Pourquoi la partie d'Europe n'a pas pu être vraiment assimilée et s'est détachée peu à peu, alors que les parties africaines et asiatiques sont restées tout à fait musulmanes. La seconde conquête, qui sera la conquête turque, qui commence en 1050, va prendre toute l'Asie mineure qui était restée byzantine, va prendre une grande partie des Balkans, et va prendre aussi en Asie centrale, mais ça, je n'en occupe pas pour le moment. Et on s'aperçoit que là aussi, la conquête turque a reculé dans presque tout ce qui est l'Europe. Et il ne reste que la Turquie d'Europe. Donc il y a ce fait que les musulmans ont toujours eu la peine à s'installer définitivement en Europe. On n'en parle pas dans le livre, mais c'est un problème qui se pose. Et d'un autre côté, la faille dont je vous avais parlé, c'est-à-dire la fracture entre Orient et Occident, qui passe du Golfe à la mer Noire par l'Euphrate, eh bien, cette faille, elle réapparaît très vite. Donc, la conquête commence en 635, et à la bataille de Siffin, c'est à 657, c'est-à-dire 22 ans après, il y a de nouveau, après la bataille de Siffin, les partisans de Ali, qui seront toujours plus nombreux du côté de l'ancien empire iranien, et Mouawiya, les Omeyyades de Damas, qui ont un modèle très, très byzantin, très proche des Byzantins. Et donc, mais cette frontière n'est pas officielle, cette faille, elle sera sous-jacente, elle jouera un petit peu pendant encore plusieurs siècles. Elle ne deviendra vraiment importante qu'avec la conquête mongole, c'est-à-dire en 1258, quand les Mongols prennent Bagdad, étouffent sous un matelas le dernier calife abbasside et sont battus quand ils entrent en Syrie. Donc les Mongols vont installer un autre type d'islam, d'abord un autre type de religion, puis après un autre type d'islam parce qu'ils vont devenir musulmans, qui va aller de l'Irak jusque à l'Inde, puisque plus tard ils contrôleront l'Inde, et aussi dans les steppes russes. Et donc, cette faille est réapparue. Et là, je sors un petit peu de l'époque. L'Irak a, à partir de cette époque, toujours été disputé. On y parle arabe, et donc, comme on parle iranien au-delà du plateau qui surplombe le Tigre, c'est normal que l'Irak regarde plus vers la Syrie et l'Égypte. Mais l'Irak a beaucoup de traits culturels qui sont très proches de l'Iran. Et par exemple, quand les Ottomans, les Turcs ottomans, vont mettre sous leur domination tous les villes et pays arabes, sauf le Maroc, eh bien, y compris le Yémen, ils vont se heurter en Irak aux Safavides d'Iran qui essayent de mettre la main sur l'Irak. Et ces Safavides qui sont issus de soufis sunnites, mais qui se sont convertis au chiisme, donc vers 1520, pour se différencier des Ottomans, vont convertir de force tout l'espace iranien au chiisme et vont aller pour ça au Liban, au sud-Liban, au Djebel Amel, où ils prennent des cheikhs chiites, ils en mettent dans chaque ville d'Iran pour convertir l'Iran au chiisme. Et chiisme plus langue iranienne, ça va être d'un côté. De l'autre côté, ottomanisme plus langue, plus sunnisme plus langue arabe, ça va être l'autre côté. Et l'Irak va être disputé de temps en temps, on va regarder du côté turc, de temps en temps, du côté iranien. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'Iran est toujours disputé entre les sunnites et les chiites. Donc c'est cette rupture qui a commencé tout de suite au début du monde musulman, hein, 657, elle est encore visible aujourd'hui. Donc l'histoire sur le long terme doit être réfléchie, et notamment le fait que l'Iran défend tellement le Liban, puisque c'est du sud-Liban que viennent les gens qui ont fait d'Iran un pays chiite.